OK, on va commencer notre deuxième leçon sur notre série sur la Providence. Alors aujourd'hui, on va voir l'œuvre de la Providence pour les saints. Dans notre première leçon, on avait vu l'ensemble des différents éléments qui sont compris dans la Providence de Dieu. Alors aujourd'hui, on va regarder l'œuvre de la Providence considérée, l'œuvre de la Providence concertée et l'œuvre de la Providence consignée. On va regarder les différents points avec tout ce que ça peut nous enseigner. Alors, l'auteur que je me sers disait que la piété des chrétiens modernes a tendance à être centrée sur soi et d'être aussi subjective. Elle s'exprime ordinairement de la manière suivante. Comment puis-je trouver la paix? Comment je peux être victorieux et efficace? Comment puis-je être guidé? Alors, ce qu'on remarque dans les trois questions, c'est le jeu. Alors, on est centré sur nous-mêmes en ce 20e siècle, en ce 21e siècle, plutôt que parfois regarder l'œuvre du Seigneur. Alors, lorsqu'arrive l'épreuve et l'adversité, nous avons tendance à exclure Dieu du portrait, ou du moins à questionner ses voies sur nous. Nous souffrons alors du syndrome de Job, en questionnant Dieu et en le soupçonnant de nous avoir oubliés ou de nous traiter injustement à cause de notre bonne marche chrétienne. Qu'on se souvienne de Job. Job, ben voyons, pourquoi tu m'as envoyé ça? Je marche droit, je fais tout, je fais ta volonté. Et la même chose peut nous arriver. Alors, si c'est arrivé à Job, n'oublions pas que ça peut nous arriver. Le syndrome de Job nous guette aussi. Alors, nous oublions trop facilement que tout ne dépend pas de nous. Alors, comme Job le constaté, il y a des choses qui étaient hors de son contrôle. C'est vrai qu'il vivait une vie droite, parce que le Seigneur lui-même le dit. Mais dans le fond, le Seigneur a permis ça dans sa vie pour des raisons précises. Et il oubliait ça, là. Il oubliait ça. Alors, dans Jérémie, chapitre 10, verset 23, ça dit, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Et dans Lamentations, chapitre 3, verset 37 à 39, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? » Quand on dit dans le verset 38, « N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? » Bien entendu, c'est un langage, parce que tout ce que Dieu permet qu'il arrive dans nos vies, c'est toujours bien. Mais dans notre niveau à nous, il y a des choses qu'on trouve bien, d'autres choses qu'on trouve mal, mais le Seigneur dit que tout contribue à notre bien. Alors, on doit se souvenir que la volonté de Dieu est révélée dans sa parole, aussi dans nos circonstances, et aussi par une appréhension correcte de sa souveraineté. Alors, quelqu'un qui aurait une très grande connaissance de la parole de Dieu, qui sait observer les circonstances que Dieu lui envoie et qui sait que Dieu est au contrôle de tout ça, et là, il fait des grands progrès dans sa vie. On avait parlé dimanche du psaume 57, c'est le psaume que je m'étais servi pour terminer le sermon. Alors, c'est le psaume que l'auteur que j'utilise avait choisi pour présenter, pour commencer son discours sur la providence de Dieu. Alors, ça nous donne un excellent exemple de la providence de Dieu, qui est utilisé par David, qui était un croyant. À cause du souvenir qu'a David des providences de Dieu dans sa vie, il plaide à Dieu pour obtenir son aide alors qu'il se trouve dans une circonstance extrême et dans une grande infortune personnelle. On se souvient, on avait mentionné que le roi Saül le poursuivait, et là, il s'était réfugié avec quelques hommes dans le fond d'une caverne, et que là, Saül est entré à l'intérieur de la caverne, mais ils avaient probablement pas vu. Mais là, c'est sûr que le sentiment intérieur de David, ça devait être sûrement, Seigneur, ça y est, je suis fait. Il était 3000 hommes à l'extérieur qui étaient avec Saül. Là, il était convaincu que c'était fort probablement les derniers instants de sa vie. J'imagine qu'il devait avoir une frousse énorme. Et la façon dont on voit qu'il a réagi, c'est là que ça nous montre que dans le fond, un croyant, ça devrait toujours de retourner vers le Seigneur, parce que le Seigneur peut agir par des moyens qu'on n'a même pas soupçonnés. Alors, ça dit, « Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David. lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Je suppose que ça devait être encore beaucoup plus insistant que ça, probablement. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. On avait vu que dans une autre version, c'est qui mène tout à bien. C'est vraiment fort comme... Alors, il se rendait compte que Dieu permettait cet événement-là, que lui, il pensait que c'était peut-être sa fin, mais encore là, il fait appel à la miséricorde du Seigneur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont des dents, qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Alors, on voit vraiment un exemple d'une personne qui est dans réduit à l'extrême. Une des raisons pour lesquelles l'auteur a choisi ce verset-là, parce qu'il dit que quand ça va bien, on questionne pas trop Dieu. C'est quand on est dans la détresse qu'on a besoin de faire comme David, de se souvenir des providences que Dieu a parsemées dans nos vies pour qu'on plaide devant lui pour des libérations. Alors, on sait ici, David est en danger de mort, car le roi Saül le poursuit avec 3000 hommes d'élite, et David est pris au piège dans le fond d'une caverne avec un très petit nombre d'hommes. On lit dans 1 Samuel 24, versets 1 à 3, « Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici, David est dans le désert d'Engedi. » Saül prit 3000 hommes d'élite, sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Imaginez-vous, là, imaginez-vous la situation. C'était un peu comme si nous, on serait quelque part dans un petit réduit où on ne peut pas sortir. Il y aurait 3000 Hells Angels dehors qui voudraient nous faire la peau. On aurait très certainement la frousse de nos vies. Dans les versets 2 et 3 du psaume 57, David plaide avec une extrême ferveur avec Dieu pour obtenir sa piété et il se réfugie à l'ombre de ses ailes. Dans les versets suivants, il évoque le souvenir des providences miséricordieuses de Dieu à son égard dans le passé. Même s'il ne voit pas absolument, comment il pourrait s'en sortir. Autrement dit, pour lui, les moyens humains sont épuisés. Il sait très bien qu'avec une petite poignée d'hommes, il ne peut pas attaquer 3000 hommes d'élite. Donc, ça voulait dire que Saül avait choisi ses meilleurs soldats pour aller chercher David. Mais il croit encore que Dieu peut le libérer de cette impasse. Alors, c'est vraiment de la foi, ça. Alors, ce psaume nous fournit une occasion de réfléchir. Nous constatons que nous devons utiliser le souvenir des providences passées de Dieu pour nous rappeler que Dieu veille sur nous et qu'il peut nous délivrer de toutes nos épreuves. Dans le psaume 18, versets 5 et 6, « Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Donc, on va regarder le premier point, l'œuvre de la providence considérée. On va regarder premièrement dans l'ensemble des providences que Dieu nous envoie, quelles sont les caractéristiques de ces providences-là. Alors, si on fait une étude attentive des Saintes Écritures, de l'histoire des saints de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, de l'histoire de l'Église dans tous les siècles et de l'histoire de la vie de tous les élus sans exception. Ça illustre de façon manifeste comment le Seigneur prend soin des siens. Plusieurs caractéristiques ressortent d'une telle observation. La providence est d'abord universelle, c'est-à-dire qu'elle opère en tout temps, pour toute la vie et dans les moindres détails de la vie des saints. Donc, universelle, ça veut dire qu'il n'y a pas un aspect qui n'est pas inclus. Elle est aussi efficace, dans le sens que les décisions de Dieu s'accompliront de façon irrésistible. Aucune force humaine ne peut les frustrer. La providence de Dieu est aussi bénéfique. Elle est toujours avantageuse pour le croyant malgré les apparences. Bien sûr que dans ce cas-là, lui, il devait certainement se questionner, est-ce que je vais mourir dans 5 minutes ou si je continue ma vie? Mais Dieu avait pourvu, avait décidé que c'était pas le moment de sa mort. Il est mort paisiblement dans son lit. Alors, il n'était pas dû pour être transpercé par une épée. Alors, la providence est aussi encourageante. Son observation nous donne de la joie et du support. C'est un des reproches que l'auteur fait dans son livre. Et je pense qu'il a raison parce qu'il dit, aujourd'hui, on a tendance à ne plus observer ces choses-là, à ne plus se souvenir des miséricordes du passé. Et plus on va se souvenir des miséricordes du passé, plus on va observer comment Dieu a agi. On a nommé les saints de l'Ancien Testament, les saints du Nouveau Testament, les saints de l'histoire de l'Église. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que dans son livre, il donne des multitudes d'exemples. Bien sûr, comme je vous expliquais dimanche, c'est tellement riche le sujet, et il donne tellement d'illustrations et d'exemples, à la fois de la Bible et à la fois de l'histoire de l'Église, que là, si on voudrait tout dire ce qu'il dit, on aurait des heures. Alors, on est obligé de choisir. Mais ce que je veux dire, c'est que si on observe la providence, lui, c'est ce qu'il nous dit de faire, qu'on se devrait de le faire, et la Bible nous dit de le faire aussi. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard avec des versets. Donc, la providence est révélatrice aussi du caractère de Dieu. Bien entendu, si on se met à observer les providences de Dieu, qui d'entre nous sait si on n'a pas été sauvé de la mort à quelque part? Moi, je me souviens une fois, j'ai traversé la rue à Sherbrooke, et il y a un auto qui m'a passé à 2 cheveux de la jambe. Mais vraiment, j'ai senti le bumper. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Est-ce que Dieu a permis qu'un ange me tasse un peu ou qu'il tasse le char? Je ne sais pas. Mais une autre fois, j'ai eu un accident, j'ai rentré dans un fossé et je m'en allais vers un gros tuyau de ciment. Voilà, 100 km à l'heure. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça y est, je meurs. En dedans de moi-même, c'est ça que je me suis dit. Et pouf, je suis sorti de là, j'ai rien eu. Alors, au cours de notre vie, c'est parce qu'on n'observe pas toujours la multitude de choses que le Seigneur envoie dans nos vies, pas seulement dans nos accidents, dans toutes sortes d'autres affaires aussi. Mais ça révèle le caractère de Dieu. Si on prenait l'ensemble de ses attributs, je ne sais pas, je pense qu'il y en a au moins à peu près 25, là. Si on prend l'ensemble de ses attributs, les attributs de Dieu, soit sa sainteté, soit sa miséricorde, soit sa bonté, soit son amour, soit sa sagesse, etc., se manifestent à travers, bien sûr, ces providences que Dieu nous envoie là. Alors, tous les attributs de Dieu sont présents dans l'exercice de la providence, et ceci, bien sûr, d'une manière infinie, parce que Dieu a des attributs qui sont infinis. Donc, on va regarder maintenant dans sa portée. On a regardé dans ses caractéristiques, dans sa portée. La providence de Dieu est manifestée pour le peuple de Dieu tant collectivement que individuellement. Par exemple, j'ai pris quelques exemples que j'ai tirés du livre, mais bien entendu, je pense qu'on pourrait les multiplier. Lui-même dit dans la description, et je pourrais en donner une multitude d'autres, mais une ou deux qui est significative, puis on va comprendre. Alors, la providence collective. Autrement dit, comment Dieu a protégé son peuple à une époque précise de l'histoire par un événement précis. La fameuse destruction partielle de l'armada espagnole. Alors, le 6 août 1588, il y avait 130 navires espagnols avec 20 000 soldats qui ont été partiellement détruits par une tempête qui a empêché les Espagnols catholiques de prendre possession de l'Angleterre protestante. Normalement, avec cette force-là, S'il n'y avait pas eu la tempête, s'il n'y avait pas été partiellement détruit, il aurait fort probablement envahi l'Angleterre. La papauté aurait pris le contrôle politique et religieux de l'Angleterre, ce qui aurait pu avoir des conséquences énormes sur les chrétiens d'Europe et d'Angleterre et de tout partout. Alors, voyez-vous, Dieu permet par un événement de la nature qu'une chose que les catholiques voulaient faire n'arrive pas. Alors, le nom que lui avaient donné les Espagnols était significatif. C'est vraiment comme presque drôle, même. Les Espagnols leur avaient donné le nom Grande y Felicima Armada, ou la Grande et Très Heureuse Flotte. Imaginez-vous, eux, ils avaient donné à la flotte quelque chose de très grand et très heureux, dans le sens parce qu'ils voyaient fort probablement qu'ils se rendraient en Angleterre puis qu'il y aurait la victoire. La mission était de rétablir Marie première, la catholique, sur le trône, et d'enlever Élisabeth première, la protestante, qui était la fille d'Henri VIII. Ce fait empêcha l'Angleterre d'être dominée par la papauté. Et à l'époque, déjà, l'Angleterre était, on pourrait dire, un château fort du christianisme. Alors, si ça avait été envahi, c'est sûr qu'on serait pas, on serait peut-être même pas ici aujourd'hui. Ça a des répercussions à très, très, très long terme. Un autre événement pour démontrer la providence collective, c'est la fameuse conspiration des poudres. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un plan qui avait été élaboré par les jésuites qui consistait à tuer le roi Jacques Ier et un grand nombre de personnalités protestantes. Et autrement dit, toute l'aristocratie et les évêques de l'Église d'Angleterre étaient présents lors de la cérémonie d'ouverture du Parlement le 5 novembre 1605. Ils avaient réussi à rentrer en dessous, il y avait toute une bande de catholiques. Ils avaient mis 36 barils de poudre en dessous du Parlement de Londres. Et il y a eu une lettre anonyme que le roi a reçue. Alors là, la lettre anonyme, Dieu a mis à l'esprit de quelqu'un de dénoncer le complot parce qu'il était au courant. Et le roi a fait une enquête, il a découvert tout le poteau rose, comme on dit. C'est, quand on lit l'histoire sur Internet, c'est très, 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 très intéressant. Et ceux qui voulaient faire sauter, en fin de compte, c'est eux qui ont fini leur vie d'une façon vraiment horrible. Parce qu'à l'époque, on niaisait pas que ça. C'était des tortures terribles pour les faire parler. Alors, la cérémonie d'ouverture, le Parlement a eu lieu, mais les barils de poudre ont été enlevés. Alors, le complot a été dénoncé par une lettre anonyme envoyée au roi. Et tous les coupables furent jugés. Et quand on regarde la manière dont ils ont été jugés, à l'époque, c'était dur, les jugements. Alors, dans le psaume 57, verset 2, dans la version d'Arby, c'est « Je crierai au Dieu très haut, à Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. » On a aussi le fameux exemple des Juifs qui ont été sauvés d'une mort certaine par l'insomnie du roi Assuérus dans Esther 6, verset 1. Assuérus était le grand roi de l'époque et une nuit, Dieu permet qu'il ne dorme pas. Et là, il se fait amener les papiers pour faire lire des choses, il se rend compte. Et toute une série d'événements déboule de ça et ça a sauvé le peuple juif. Éventuellement, quand on lit Esther, on a toute l'histoire. Alors, ça dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela ?» Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Et surtout, quand on recommencera pas toute l'histoire, mais dans le fond, Dieu, par l'insomnie d'un roi, fait en sorte que son peuple est sauvé. Alors on voit la main de Dieu dans les événements collectifs, et on pourrait citer une multitude d'autres exemples. Et il est aussi présent dans notre vie individuellement. Si la providence s'exerce aussi dans notre vie. On peut prendre les exemples bibliques. Moïse, par exemple, Exode 17, versets 14 et 15. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. » et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière, donc Jéhovah Nissi. Alors Dieu dit à Moïse, écris cela dans un livre. Bien sûr, Moïse était bien au courant de ce que Dieu avait fait. Son nom même veut dire sauver des eaux. Alors dès sa naissance, Dieu avait mis sa main pour le sauver et après ça, le sauver de la main du pharaon d'Égypte. On a aussi l'exemple de Jacob. Quand il s'en retourne pour dans son pays avec ses femmes, et là, il a peur de rencontrer son frère, il a peur que son frère lui saute dessus, et c'est pas ça qui arrive. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Et on sait que les conditions qu'il a données ont été rencontrées, donc automatiquement, après Jacob, il fallait qu'il prenne l'Éternel comme son Dieu. On a aussi l'exemple d'Abraham. Quand Dieu a demandé à Abraham de tuer son fils, c'était pas une petite demande non plus. Genèse 22, verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. On a vu que l'Éternel avait pourvu à une victime pour remplacer son fils. Gédéon, aussi, quand il parle, alors dans le contexte, quand on parle de l'Éternel, c'est Jéhovah Shalom. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. On sait toute l'histoire de Gédéon, c'est encore une autre histoire. Il était la plus petite tribu, la plus petite famille, le plus petit de et Dieu l'a choisi pour faire une grande œuvre. Alors aussi, on va regarder la providence dans ses caractéristiques, dans sa portée, maintenant dans son appréciation. Une chose qui est importante qu'on réalise, c'est que peu importe le degré d'observation qu'on va avoir de la providence de Dieu dans nos vies, elle va toujours être partielle et imparfaite. Parce qu'on a beau augmenter notre savoir, elle va être complétée uniquement, elle sera globale et pleine durant notre vie céleste. Moi, j'aurais bien aimé un exemple qu'un professeur m'a donné. Il parlait comme de ceux qui font des tapis. Souvent, ils vont travailler pour que l'extérieur ne soit pas visible. On va voir des yeux, on voit l'envers du tapis. Alors, ceux qui font du crochet, je ne suis pas trop courant, ils comprennent probablement fort mieux que moi ce que ça veut dire. Mais notre vie est comparée un peu à ça. Nous, ce qu'on regarde, on voit des bouts de fil dépassés, mais tant que le tapis n'est pas tourné de bord, on ne voit pas le grand motif, on ne voit pas toute la perfection de tous les petits points qui ont été faits là-dedans, toute la beauté qu'il y a là-dedans. Et je pense que c'est exactement la même chose. Quand on va arriver au ciel, l'Éternel va nous ouvrir les yeux sur toutes les providences qu'il a permis dans nos vies, et on va voir pourquoi il l'a fait, et qu'est-ce que ça l'a amené, la sagesse qu'il y avait là-dedans. Alors, ce côté-ci, ça ne veut pas dire qu'à cause qu'on ne peut pas l'avoir parfaite, de renoncer, de l'avoir le plus qu'on peut, mais il faut savoir qu'elle ne sera jamais parfaite et globale. Ça va aller dans l'éternité pour qu'on puisse vraiment l'apprécier. Donc, l'œuvre de la providence concertée, on sait qu'un concert, c'est quoi un concert? On met des musiciens devant nous, des fois il y en a 200, et un concert, c'est qu'on s'organise pour que tout le monde joue le même morceau en même temps avec leurs instruments respectifs. Alors, l'œuvre de la providence concertée, c'est que Dieu fait l'exercice de sa providence sous supervision. Autrement dit, c'est lui qui supervise le grand concert de nos vies, le grand concert de l'histoire de l'Église à la fois collective et individuelle. Alors, la supervision divine, Job 36, verset 7. « Il ne détourne pas les yeux des justes, il les place sur le trône avec les rois, il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui, tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. » Alors, il ne faut pas oublier que, surtout, l'importance de se souvenir, c'est surtout quand on est en détresse. Parce qu'on a le syndrome de Job, c'est sûr et certain, jamais déjà arrivé dans ma vie, ça va peut-être m'arriver encore. Puis là, je lisais une biographie cet après-midi, il disait qu'à la fin de sa vie, c'était un homme qui était un très grand prédicateur en Écosse, puis à la fin de sa vie, quand il est venu sur le bord de la mort, il a eu des doutes. Ça, c'est un moment de détresse. Pour un croyant, là, arriver à la fin de ta vie, alors c'est sûr que le démon devait le travailler énormément pour lui faire perdre sa paix, sa joie. Mais il l'a retrouvé avant de mourir. Mais c'est quand même pour dire que ça peut nous guetter à tout moment. Et fois, dans ce moment-là, on a vraiment besoin de se souvenir que Dieu ne nous a pas oubliés. Donc, l'œuvre de la Providence concertée par supervision divine, mais aussi par intervention divine. On prend l'exemple de Daniel, qui était sauvé de la fosse au lion, qu'on lit dans Daniel 6, versets 16 à 24. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel, qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer des lions? » Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont point fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse au lion. Eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. » Alors, on voit que c'était sévère à cette époque-là. Hein. C'était ceux qui avaient fait le complot. À ce moment-là, le roi, c'est que c'était toute la famille. C'était la femme puis les enfants, toute la gang. Youh! C'était extrêmement sévère. On a aussi l'exemple de l'intervention de la Providence dans la vie de Paul, quand son neveu a dénoncé le complot que les Juifs avaient eu à son égard dans Actes 23, versets 16 à 23. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit, « Le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda, « Qu'as-tu à m'annoncer? » Il répondit, « Les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. » Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela deux des centeniers et dit, « Tenez-vous prêts, dès la troisième heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Alors, le Seigneur a permis que le jeune homme soit au courant, qu'il allait avertir, et on sait que ça l'a sauvé la vie de Paul. Donc, pour lui, c'est une très grande providence de Dieu dans sa vie. Et on le sait, les Écritures nous le disent, on le sait tous, que c'est pour une fin divine, peu importe ce qui arrive, Dieu fait les choses pour notre plus grand bien. Le fameux Romains 8, 28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, dans l'original, c'est « travail ensemble ». C'est vraiment « tous les événements travaillent ensemble ». Le mot est fort aussi. « Travailler », ça veut dire que c'est très, très actif. Tout ce qui se passe est actif pour amener vers une fin qui est une bonne fin. Alors, quelques exemples aussi tirés des Saintes Écritures démontrant que Dieu agit toujours pour une fin précise. Les sages-femmes israélites, alors pour éviter que des personnes, des membres du peuple de Dieu soient tués, les sages-femmes israélites avaient refusé d'obéir. C'était quelque chose de très grave à l'époque, là. Désobéir au Pharaon, c'était un grand, très, 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 très grand risque. Exode 1, verset 15 à 21, le roi d'Égypte parla ici aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur leur siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Ils ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? » Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu de la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Dieu se sert encore une fois de travailler sur l'esprit de quelques femmes pour sauver une multitude d'enfants de la mort certaine. J'aime bien le conseil d'Achitophel aussi, c'est un exemple des Écritures que j'aime beaucoup. On sait qu'Achitophel, le roi David était en train de sauver de son fils qui voulait prendre la place. Et on sait que l'événement, Achitophel était à l'époque un grand conseiller et les Écritures disent qu'à l'époque, on prenait son conseil comme étant comme quelque chose qui équivalait à la parole de Dieu. Imaginez-vous, le gars, il avait une réputation d'un excellent conseiller. Alors, ça nous raconte un petit peu cette histoire-là dans 2 Samuel 16, versets 19 à 23, et à partir du chapitre 17, versets 1 à 3 et versets 14 et 23. On va les lire. « D'ailleurs, qui servirais-je, ne serait-ce pas son fils? Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. » Dans le verset 23, ça dit « Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. » Imaginez-vous. Parfois, ça nous montre quelque chose que les hommes ont tendance parfois à donner trop d'importance à certaines choses et passer à certaines autres. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Et quand on retombe dans le verset, chapitre 17, verset 1 à 3, Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes, je m'élèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui était avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi, lui seul, et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. » Si on s'en va un petit peu plus loin dans le même chapitre, dans le verset 14, Absalom et tous les gens d'Israël dirent, le conseil de Hushai, on se souvient que David avait envoyé Hushai pour annuler son conseil. Conseil d'Hushai, l'archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'emmener le malheur sur Absalom. Mm-hmm. Voyez-vous, même Dieu reconnaît que le conseil qu'il avait donné à Achitophel était bon. Mm-hmm. Mais Dieu avait dit, non, ça ne se produira pas comme ça. Et dans le verset 23, Achitophel, là on voit l'orgueil de l'homme, c'est fourraide là. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, scella son âme et partit pour s'en aller chez lui, dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. Mm. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterrait dans le sépulcre de son père. Imaginez-vous. Autrement dit, vu que ses conseils avaient toujours été suivis parce qu'il était reconnu comme un homme très sage, là, il y a un de ses conseils qui n'est pas suivi. Il est tellement orgueilleux qu'il décide de se pendre à cause que... C'était comme pour lui, c'était comme la fin de sa vie. On ne me croira plus, je ne serai plus le petit Dieu de ce monde. Troisième point qu'on va regarder, l'œuvre de la Providence consignée. Pourquoi j'ai pris le mot consigné? Parce que consigner quelque chose, c'est le mentionner et le rapporter par écrit afin d'en conserver la mémoire. C'est ce que Dieu veut, que nous nous souvenions de ses hauts faits et de toutes ses actions en notre faveur. Alors, on pourrait se dire, pour moi, c'est une idée relativement nouvelle je me souviens d'avoir lu l'introduction de, comment il s'appelle, Matthew Henry. Matthew Henry écrit un commentaire en 6 volumes, et au début, il raconte un petit peu sa biographie. Et Matthew Henry, qui était un très, très grand écrivain, théologien, baptiste, non, il était presbytérien, je pense. Et il raconte que quand il a commencé sa vie chrétienne, il a appliqué ces conseils-là. De faire un inventaire depuis le début de sa vie, de toutes les choses que Dieu avait permis qu'il arrive dans sa vie, le lieu de sa naissance, la famille dans laquelle il était arrivé, l'éducation qu'il a eue. Et il a fait le tour de toutes sortes tout ce qu'il se souvenait, pour qu'il s'habitue à voir la main de Dieu dans tout ce qui est arrivé dans sa vie. Alors, c'est vraiment un ordre divin. Dieu nous commande de le faire. Dans le psaume 70, verset 1, « Au chef des chantres de David, pour souvenir, ô Dieu, à toi de me délivrer, Éternel, à toi de me secourir. » Esther 9, verset 27 et 28, on se souvient que dans le livre d'Esther, le Seigneur voulait qu'il garde le souvenir du Purim, donc il avait été sauvé à cause du plan d'Aman, là, pour qu'il soit, tous les Juifs soient détruits. Alors, dans le verset 27, les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attachaient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces deux jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébré de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. Même aujourd'hui, les Juifs continuent de fêter la fête du Purim. Mais oui, c'est vieux, ça vient d'Esther. Et ce souvenir, Dieu veut qu'on se souvienne. Pourquoi il a institué? Pour qu'on s'en souvienne que Dieu intervient de façon dans nos vies. Exode 13, verset 3. Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. » Quand vous regardez le décalogue, le Seigneur veut que tu te souviennes que c'est lui qui t'a sorti d'Égypte. Le souvenir, c'est quelque chose de présent dans les Écritures où Dieu demande qu'on se souvienne. 1 Chronique 16, versets 11 et 12. « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. » Imaginez-vous, juste ici, si on voudrait écrire « Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits. » Prenez la Bible d'un couvert à l'autre. Vous allez voir, vous allez en trouver un méchant lot de prodiges que Dieu a faits. Des miracles, des jugements. Sorte de choses. Alors, il dit « Souvenez-vous ». Alors, ça implique qu'on connaisse bien nos Écritures et que ces choses-là entrent dans nos mémoires. Néhémie, chapitre 4, verset 14. « Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » On se souvient qu'il était attaqué, il était en train de vouloir construire les murs de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il leur dit pour les encourager? Souvenez-vous de ce que le Seigneur a fait dans le passé pour vous. Souvenez-vous. Parce que si tu l'oublies, tu penses, ah ben là, on est fait, Dieu va permettre qu'on perde. Psaume 105, verset 5. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Isaïe 46, versets 8 à 10. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes, pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Avez-vous, à l'intérieur de trois versets, il dit deux fois, souvenez-vous. Alors, et on pourrait prendre beaucoup d'autres versets. Là. Alors, c'était pourquoi Dieu veut qu'on consigne, autrement dit, qu'on mette par écrit ces choses-là. Sont déjà par écrit jusqu'à un certain point dans les Écritures, pour ce que Dieu veut qu'on se souvienne. Mais il y a l'histoire de l'Église. Et il y a l'histoire de nos vies personnelles aussi. Moi, j'avoue que je ne l'ai jamais fait, l'exercice. Je me souviens d'avoir lu sur le blog de Pascal, que Pascal l'a fait, lui. Il a pris un temps pour regarder tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie depuis le début, depuis sa naissance, en s'en venant dans l'éducation qu'il a reçue et tout ça, jusqu'à aujourd'hui, pour justement, je pense qu'il avait lu ça aussi, probablement dans l'histoire de Matthew Henry, qu'on lit dans le début de son commentaire. Alors, Dieu veut qu'on consigne ces choses-là, mais c'est pour un usage pour les saints. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans si on le fait? On va trouver des saints conseils. Alors, dans 1 Samuel 25, verset 34, on a l'exemple que David, qui suit le conseil d'Abigail, Abigail s'en vient à sa rencontre, et David s'en allait tuer Nabal parce qu'il n'avait pas voulu l'aider. Et Dieu permet qu'une femme qui a eu un éclair de génie aille voir David et dit, fais pas ça, tu vas faire une méchante bêtise. Et dans le verset 34, elle dit, mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal. Il attribue à Dieu, mais c'est Abigail qui était l'instrument. Mais il attribue quand même à Dieu qu'il dit, c'est le Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu ne t'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne te serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Autrement dit, tu serais mort, ton mari serait mort, puis toute la gang qui était là serait toute morte. Alors, on voit que par des grâces prévenantes aussi. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 35 à 37, on a le fameux roi Josaphat, qui est un bon roi. Quand on lit l'histoire de Josaphat, la Bible le considère comme un bon roi. Mais il a fait une couple de bêtises. Et quand Dieu a permis qu'il fasse cette bêtise qui a été réparée ensuite, parce qu'il avait demandé de mourir avant son temps, Dieu lui a donné 15 ans, mais il a arrêté mieux de partir tout de suite. Après ça, il a voulu s'allier avec un roi pour aller faire des guerres. Autrement dit, s'allier avec un inconverti pour faire une guerre. Dieu voulait pas ça. Qu'est-ce que Dieu permet? Alors, il avait permis qu'ils construisent des bateaux pour aller faire cette fameuse guerre-là. Dieu permet que les bateaux soient détruits avant même qu'ils tentent l'expérience. On lit dans 2 Chroniques 20, versets 35 à 37. « Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. » Voyez-vous, un chrétien qui s'allie avec un impie, Dieu ne l'approuvait pas. Il aurait bien pu le laisser faire. Mais il dit, il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis, et ils firent les navires à Ethjon-Guéber. Alors Éliézer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit, « Parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. » Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Alors on voit que Dieu intervient dans la vie des saints. Et c'était un grand roi, il était bon, mais était un petit peu, parfois, portait être bonasse un peu, et Dieu l'a corrigé. Maintenant aussi, Dieu permet aussi, des fois, des interventions providentielles comme ça, pour éviter de l'orgueil. Dans 2 Corinthiens 12, on a l'exemple de Paul, qui avait eu des révélations, qui avait dit qu'il avait monté au troisième ciel, il avait vu des choses, il avait entendu des choses qu'il ne pouvait pas répéter. Et Dieu, dans le but qu'il ne s'enorgueillisse pas, permet qu'il lui arrive quelque chose. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et pour m'empêcher de m'enorgueillir. Alors, il devait souffrir parce qu'il a demandé à trois reprises au Seigneur. Le Seigneur il a dit, non, ma grâce te suffit. Autrement dit, il avait besoin de ça pour pas qu'il s'enorgueillisse. S'il y aurait enlevé, peut-être qu'il se serait enorgueillé. Alors, Dieu sait ce qu'il fait. Pour nous ouvrir les yeux également, psaume 113, versets 12, 13 et 17. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Et dans le verset 17, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Autrement dit, le psaume 113, c'est vraiment l'idée que, comme croyant, ça peut arriver qu'on soit jaloux des gens que Dieu bénit beaucoup plus que nous autres, puis c'est des inconvertis. Là, on en regarde ça, puis on se dit, ouais, non, non. Et là, il dit, ouais, il est resté comme ça, mais jusqu'à ce qu'ils comprennent leur destinée éternelle. Quand tu comprends leur destinée éternelle, tu te dis, ouais, okay, il n'y aura pas pour longtemps. Et aussi pour nous éviter de pécher. Exode 20, verset 6, Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Alors, je pense que c'est une bonne chose pour les chrétiens de demander des grâces prévenantes au Seigneur, parce qu'il en donne. Alors, la raison pour laquelle il nous demande de les consigner, c'est vraiment pour qu'on les médite. Méditer, c'est soumettre quelque chose à une longue et profonde réflexion. Dieu nous commande de méditer sur ses providences. On voit l'exemple de Paul ici dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23-28. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Regardez bien le verset 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veille à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au foie, à la nudité, dans le verset 28, et sans parler d'autre chose. Autrement dit, il fait juste une liste partielle. Dieu a-tu permis qu'il n'ait des souffrances dans sa vie, cet homme-là? Plus que la majorité d'entre nous n'auront jamais. Il dit, « Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. » Et dans 2 Timothée, il nous dit que dans le fond, toutes ces souffrances-là, 2 Timothée, chapitre 3, verset 10 et 11, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Alors vraiment, il est en train de faire une liste, puis j'en oublie. Le Seigneur m'a délivré de tout. Mais pour lui, c'était nécessaire dans sa vie. C'est comme nous autres, on voit le tapis aussi à l'envers. Lui, il va le voir à l'endroit, uniquement au ciel. Psaume 107, verset 23 à 31. Il manque le verset 28, je ne sais pas pourquoi. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Verset 29, il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées. L'Éternel les conduisit au port désiré. qui loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'on se souvienne de l'exemple de celui qui a écrit Amazing Grace, là, quand il était sauvé sur une tempête de la mer. Il était sûr qu'il y resterait aussi. Les tempêtes, les vagues, une hauteur. T'es sûr que quand t'es sur la mer, là, puis que le bateau se promène comme ça, là, il était sûr qu'il y passerait. Puis c'est là que le Seigneur lui a fait grâce et le Seigneur l'a épargné. Je suis pas là. Psaume 143, verset 5, « Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Dans Job, verset 37, verset 14 à 16, le Seigneur dit, « Job, sois attentif à ces choses, considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant? Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? » Alors, bien sûr, à partir d'une brève leçon comme celle d'aujourd'hui sur la manière dont Dieu intervient dans nos vies, dans la vie aussi collective de l'Église, on peut tirer plusieurs leçons. La première, c'est à la fois un plaisir et un devoir que de considérer les merveilleuses providences de notre Dieu. Elles sont universelles, efficaces, bénéfiques, encourageantes et révélatrices du caractère de Dieu. Elles s'étendent sur les élus collectivement et individuellement. Nous pouvons les apprécier dès cette terre, mais nous n'en découvrirons toute la richesse et toute la perfection que dans l'éternité où le Seigneur nous fera admirer son infinie sagesse. Deuxième application, n'oublions jamais que tout ce qui arrive dans nos vies est une symphonie composée par Dieu lui-même. C'est un concert de supervision divine, par intervention divine et pour une fin divine. Troisième application, l'Éternel veut que nous conservions le souvenir de ses providences. C'est son ordre de les consigner par écrit. Elles pourront ainsi nous servir pour de multiples usages, de saints conseils, des grâces préventives, l'évitement d'orgueil, l'ouverture des yeux et l'évitement du péché. Alors, méditons-les. Que l'Éternel soit béni pour sa sagesse, son amour et sa miséricorde. Méditons sur ses providences, de grandes bénédictions en découlent.
Amen. Amen.